Radio Okapi.
Directé de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Le conseil urbain de la jeunesse plaide pour la fermeture des 100 maisons de tolérance à Beni et 120 à Kassindi où des filles sont contraintes de se prostituer. La structure réclame aussi des poursuites judiciaires contre les responsables de ces maisons closes. Dans les Kwilu, des sauterelles ravagent des cultures vivrières à Massimanimba. L'administrateur du territoire sollicite du gouvernement provincial et national l'obtention des insecticides pour y mettre fin. Jean Bosco Mukubidi redoute la disette. Notre invité, c'est le chef d'antenne du PF Mbandaka. Docteur Jean-Robert Issandjoula parle de l'attitude à adopter en cas de complications après la vaccination contre la fièvre jaune dans les trois aires de santé de la ville. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Noël Mokondo. Au Nord Kivu, des voix s'élèvent contre les abus sexuels dont sont victimes des mineurs et des femmes déplacées dans la cité frontalière de Kassindi, à la frontière de l'Ouganda et dans la ville de Beni. La conseillère du Conseil urbain de la jeunesse demande aux autorités de fermer carrément toutes les maisons closes où des filles sont contraintes de se prostituer. Charlie Masika réclame également des poursuites judiciaires contre les responsables de ces maisons closes. Elle est au micro de Marc Marofimo.
C'est avec amertume que nous avons appris cette situation et ça nous fait très mal. Nous devons faire quelque chose pour aider toutes ces femmes et filles mineures, puisque ce sont des personnes d'abord qui sont de vulnérables. Et quand elles se réfugient quelque part, elles subissent encore des actes d'abus et exploitation sexuelle. C'est vraiment très mal. Je peux donner une recommandation à notre gouvernement de bien pouvoir faire quelque chose. Et surtout, comme nombreux sont exploités dans des maisons de tolérance, communément appelées KIG, je recommande assez que les services de sécurité fassent la traque de toutes ces maisons de tolérance et que tous ces tenanciers et tenancières de ces maisons puissent subir la rigueur de la loi. Mais aussi, je donne la recommandation à tous les membres de la communauté de bien pouvoir ne pas être des acteurs de cette situation-là. J'appelle tous les membres de la communauté de bien pouvoir avoir un air sur toutes ces filles-là et de bien voir dans quelle mesure du possible nous pouvons parvenir à les aider.
Notez que dans son dernier rapport, l'association dénommée Jeunes Patriotes Consolidateurs de la Paix a répertorié plus de 100 maisons closes à Beni et au moins 120 dans la cité frontalière de Kassindi. On reste à Beni où la protection civile de la région plaide pour le rétablissement urgent de la sécurité dans la zone des Ringeti et cela pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire en faveur de nombreuses familles qui y ont trouvé refuge ces dernières semaines. Selon son coordonnateur qui affirme que ces personnes qui viennent de plusieurs localités de l'Ituri vivent dans des conditions difficiles et ont besoin d'une assistance. Pour en parler, retrouvons à Beni Marc Marofimo.
Ils sont plus de 300 ménages déplacés venus de Komanda, Otmaber, Luna, Ndalia, Katabei et Kabriki en province de l'Ituri ayant trouvé refuge dans la localité de Ringeti en territoire de Beni à la limite entre la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces derniers sont majoritairement des femmes, des enfants et des personnes de troisième âge hébergées dans des églises et dans les écoles. Ils mangent difficilement, l'état de lieu hygiénique et sanitaire catastrophique indique la société civile de Ringeti. Vu cette situation, la protection civile en territoire de Beni plaide pour le rétablissement de la paix dans la région où ces derniers ont trouvé abri afin que les humanitaires aient accès pour leur venir en aide. Jean-Paul Capitula est son coordonnateur.
Là, nous allons aussi supplier les autorités militaires. On ne peut pas faire une intervention dans une zone insécurisée. Parce qu'il ne faut pas que l'assistance insécurise davantage les personnes bénéficiaires. Parce que les humanitaires vont passer par où? Et ces personnes qui vont être bénéficiaires ne seront-elles pas une cible de l'ennemi pour chercher à se ravitailler à manger?
C'est depuis plus de 2 semaines maintenant que les vagues de déplacés sont observées dans cette région. Les familles d'accueil sont également débordées, indique Jean-Paul Capitula, qui craint que cette situation arrive pendant ces temps où la ville et territoire de Beni font face à la maladie, à virus Ebola, ainsi que le coronavirus. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Non loin de là, en Ituri, 11 cas de mortalité infantile due à l'anémie et à la malnutrition aiguë ont été enregistrés en l'espace de 2 semaines dans 3 aires de santé de Nizi dans le territoire de Djougou. C'est suite au retrait de Médecins sans frontières à cause de l'insécurité dans la région. La société civile et les autorités médicales plaident pour le retour de cette ONG humanitaire. À Bounia, une correspondance d'Ezekiel Mouzalia.
Les derniers cas de décès ont été enregistrés mardi à Iga Barrière. Il s'agit des 3 enfants âgés de 0 à 5 ans, affirme le président de la société civile locale. Dino Gédéon précise que plusieurs enfants et même certains adultes souffrent de malnutrition dans 3 aires de santé où sont concentrés des milliers de déplacés qui ont fui les atrocités de la milice Codeco. Ces derniers font face à une crise alimentaire depuis le retrait de l'ONG Médecins Sans Frontières MSF qui intervenait notamment pour la prise en charge des certaines maladies et de la malnutrition, dit nos Gédéon.
Avec l'MSF, il y avait la réussite pour nos enfants de 0 à 5 ans. Mais après le départ de l'MSF, nous avons constaté la mort de nos enfants. Que si l'MSF revienne, nous allons les sécuriser jusqu'à notre dernier énergie.
De son côté, le médecin chef des zones de santé de Nizi déclare qu'une équipe médicale est déployée sur place pour des interventions d'urgence. Jean-Claude Lonzama.
Il y a eu un afflux de déplacés qui sont venus de partout. Donc ça nécessite quand même beaucoup d'assurer la sécurité à tous pour que les gens travaillent dans une position qui est plus confortable.
Contacté, le chargé de communication de MSF promet de réagir dans les prochains jours. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis au sud Kivu, les déplacés et les retournés de Bibokoboko vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils avaient fui récemment les combats entre des miliciens Maïmaï et les Tuguaneo le 13 octobre dernier. Reportage à Bibokoboko de Fiston Ngoma Mayabala.
École primaire Bora de Bibokoboko. C'est ici le site officiel où sont concentrés les déplacés qui attendent de rejoindre leurs villages Mugorore, Magunga, Nyakisozi, Mugono, Kabembwe, Magaja. Leur sécurité est assurée la nuit par les FRDC. Ces déplacés se disent très préoccupés de leur sort. Des enfants et une femme sont décédés ici à la suite des maladies. Rukenu Ramatalatala, déplacé ici à Bibokoboko.
Nous demandons au gouvernement de faire la réconciliation entre toutes les communautés, Banyamurenge, Bafurero, Babembe, puisse vivre ensemble et en paix.
À côté de lui, un jeune Mucho Alexis, âgé de 20 ans, nouveau diplômé d'État de l'Institut Boneza de Rushasha. Quel est votre point de vue en tant que jeune sur cette crise, Bibokoboko?
Nous, ici, nous vivons mal à cause des guerres qui ont ici. Ce que je peux demander au gouvernement, c'est pour nous protéger, nous, les habitants d'ici, et pour amener la paix ici au Moyen-Plateau.
Tous ces déplacés ont besoin de regagner leurs villages respectifs. Cependant, ils lancent l'appel au gouvernement congolais de les sécuriser et aux humanitaires de leur venir en aide. Depuis Bibokoboko, Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où 2 jours après l'attaque des rebelles du M23 à Tchanzu en territoire de Rutshuru, la situation est redevenue normale à Bunagana et ses environs et les déplacés sont rentrés à 80% dans les groupements de Djomba. Cependant, un dispositif sécuritaire inhabituel s'observe dans la ville voisine de Goma depuis cette attaque. Sifa Maguru nous décrit la situation qui prévaut dans la ville.
D'abord, à Bunagana, les autorités administratives et coutumières affirment que la majorité de la population a regagné ses villages dans le groupement de Djomba. Ses habitants essayent de reprendre leurs activités tout en constatant les pertes et autres dégâts enregistrés lors de leur fuite lundi dernier. Pour le président de la société civile de Djomba, Damien Seboussanane, bien que la population soit rentrée, les autorités doivent renforcer les mesures de sécurité dans cette région parce que l'ennemi n'est pas trop loin. Pendant ces temps, dans la ville de Goma, une psychose s'observe, surtout à des heures du soir, depuis cette attaque du M23 à Tchanzu. Non seulement les sujets occupent toutes les conversations, des réactions fusent de partout dans les cercles sociopolitiques, mais surtout les déploiements peu habituels des agents de sécurité dans tous les coins stratégiques, ainsi que les patrouilles toute la nuit. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. Dans la province du Kwilu, des sauterelles ravagent des cultures vivrières à Massimanimba. L'administrateur du territoire affirme à Radio Okapi que cette situation persiste malgré les démarches qu'il a entamées pour y mettre un terme. Jean Bosco Mukubidi sollicite par conséquent du gouvernement provincial et national l'obtention des insecticides à Bandunduville, Irène Mboma.
L'administrateur du territoire de Massimanimba précise que cette réalité malheureuse se produit précisément dans le secteur de Bindungi vers le village Mosambo. À l'en croire, des champs de paisibles citoyens sont ravagés par des sauterelles qui attaquent toutes sortes de cultures. Jean Bosco Mukubidi redoute la famine qui, selon lui, pourra surgir dans cette partie du Kwilu dans les tout prochains jours.
Il y a des sauterelles qui ravagent toute culture, quelle que soit la nature, les cultures vivrières. Ça commence par les feuilles jusqu'à l'écorce, ça risque d'amener la disette dans ce côté-là. C'est vraiment difficile.
Cette autorité territoriale sollicite l'intervention du gouvernement tant provincial que national pour mettre fin à cette situation.
Nous voulons que le gouvernement puisse intervenir rapidement pour amener si possible les insecticides parce qu'avec le feu, on a essayé de fumifier, ça n'arrange toujours pas. Alors là, nous ne savons pas ce que nous devons faire, c'est pour cela. J'appelle le gouvernement d'intervenir pour sauver cette partie de la population. On avait déjà commencé à écrire, on parlait partout, mais personne ne vient en aide.
Il sied de noter que cela fait déjà près de 6 mois que cette situation persiste dans cette contrée, a signalé Jean Bosco Mukubidi. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Pour la suite du journal sur Radio Okapi, sachez que la chanson Nini Tosalité du groupe Musique Populaire de la Révolution, MPR, est interdite de diffusion sur les chaînes de télévision, les stations de radio, des écrans géants et sur les autres moyens de communication installés en RDC. Cette décision a été prise mardi ici à Kinshasa par la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles. Il est reproché à ce groupe la violation des dispositions des articles 2, 5 et 13 du décret du 21 février 1996 portant création de cette commission et pour n'avoir pas présenté le clip vidéo avant sa diffusion. Les mêmes griefs sont reprochés à l'artiste musicien Bob Elvis dont les 6 clips sont interdits, y compris la chanson proprement dite « Lettre à Yachichi ». N'est-ce pas, Alain Rungumushige?
Nini Tosalité ou que n'avons-nous pas fait est le titre du duo des artistes Yuma Dash et Zozo Machine. Avec plus de 800 000 vues sur YouTube 4 jours après sa sortie, la chanson interpelle les dirigeants du pays 61 ans après l'indépendance. Ce titre relate les conditions difficiles de la vie d'un Congolais qui s'adresse à son dirigeant. Quant à Lettre à Yachichi, Bob Elvis commence son opus par l'octroi des véhicules 4x4 aux députés nationaux. Le clip montre l'artiste devant un cercueil entouré des bougies faisant rapport à Étienne Tshisekedi, dont l'effigie est visible. L'opposant Étienne est le papa de l'actuel président Félix Tshisekedi. Selon l'esprit de la chanson, le slogan « Le peuple d'abord » du parti au pouvoir n'est pas respecté. Mais que reproche la Commission nationale de censure à ces deux chansons? Didi Kelo Kelo, son directeur, explique.
Les chansons ne sont pas censurées. Dans la décision portant interdiction, il demande à ce que les artistes déposent au préalable le support à la Commission avant leur diffusion au public ou à l'intention du public. C'est la loi. Ils n'ont rien à voir avec le message.
Le directeur de la Commission nationale de censure indique que la mesure d'interdiction des diffusions de ces chansons pourrait être levée dans les heures qui suivent, dès que les artistes ou leurs représentants se seront présentés pour respecter la procédure.
Merci Alain Irungmouchige pour ces précisions. L'actualité, c'est aussi la fin ce mercredi à Kinshasa des ateliers de sensibilisation sur la vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Ces assises organisées dans la capitale par le ministère de l'aménagement du territoire visent à amener les bourgmestres et les chefs des divisions à s'en imprégner pour une bonne application le moment venu. Le chef de la cellule d'appui technique à cette réforme parle du bien fondé de ce projet. Le professeur Kabamba Kabata a été joint par Babel Pongo Masimango.
Primo, le fait que la politique impose que le cadre institutionnel juridique soit revu. Et nous avons déjà la loi qui est sous étude à l'Assemblée nationale. C'est déjà une innovation importante parce que la loi qui existait, le décret de 1957, était déjà obsolète. Deuxièmement, la politique et la loi, en plus de l'administration qui va être renforcée, créent des organes pour la mise en œuvre de cette politique. C'est des organes qui n'existaient pas notamment les différents conseils nationaux, provinciaux, conseils locaux d'aménagement du territoire, dans lequel toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des organismes étatiques, du monde des affaires, de la société civile, des autorités coutumières et des peuples autochtones pygmées, tous sont représentés dedans pour arriver à se mettre d'accord comment on va affecter les terres et leurs usages. Mais ça va aussi permettre de résoudre les épineuses questions de la superposition des titres à travers un arbitrage qui permet à tous de garder la paix sociale.
Actualité internationale.
Deuxième jour d'audition ce mercredi pour celui qui était l'un des principaux responsables sécuritaires lors du putsch de 1987 au Burkina Faso et qui avait coûté la vie à Thomas Sankara. Les avocats de la partie civile se sont concentrés exclusivement sur ce que Gilbert Diendéré avait fait après l'attaque contre le Conseil d'entente. La vice-présidente des États-Unis d'Amérique est arrivée à Paris mardi soir. Kamala Harris s'est aussitôt rendue à l'Institut Pasteur pour évoquer la situation sanitaire. Après l'entretien de ce mercredi matin avec le président français Emmanuel Macron, elle participera demain jeudi au forum sur la paix et à la conférence sur la Libye. Et puis au Sénégal, l'audience de Barthélémy Diaz à la cour d'appel a été reportée au 1er décembre prochain. Le candidat de la coalition de l'opposition à la mairie de Dakar était convoqué ce mercredi dans une affaire de meurtre qui remonte à 2011.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef d'antenne du programme élargi de vaccination Mbandaka. Docteur Jean-Robert Issandjoula parle de l'attitude à adopter en cas de complications après la première étape de la vaccination contre la fièvre jaune dans les trois aires de santé de la ville. Il s'entretient à ces sujets avec Paul-Richard Malingela.
Docteur Jean-Robert Issandjoula, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Que dites-vous des nombreux malades qui ont présenté diverses réactions après leur piqûre de vaccin? Ou quel conseil est-ce que vous leur donnez pour l'avenir?
Ok, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais dire à tout le monde que ça, c'est un vaccin très sûr, très, très sûr. Néanmoins, il peut arriver des petits soucis après l'administration de ces vaccins. On peut faire un peu de maux de tête, on peut faire la fièvre, mais lorsque cela arrive, il faut directement signaler au niveau des centres de santé juste à côté de votre domicile. Il faut signaler pour que nous voyons comment très bien vous suivre. S'il y a des problèmes un peu plus graves, une personne qui présente des faiblesses, quelquefois il peut vomir, quelquefois il peut avoir également des convulsions, des cas comme ça, il faut signaler au centre de santé puisque tout est mis en place pour la prise en charge des cas pareils. Les hôpitaux généraux sont préparés par rapport à ça. S'il y a quelque chose, on les amène à l'hôpital général des références où les médecins sont préparés pour la prise en charge.
Par rapport à l'actuelle campagne qui est en train de se terminer, quelles ont été les difficultés ou bien les défis auxquels vous avez été confrontés?
Bien, la première difficulté, c'était d'abord l'intoxication à travers les réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, c'est tout le monde qui se transforme en médecin, qui se transforme en pharmacien, c'est tout le monde qui écrit de n'importe quoi à travers les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous avons demandé à notre population de suivre ce que nous, médecins de l'État, ok, disons où nous mettons sur la toile. Donc, ils peuvent pas suivre ce que tout le monde est en train de publier. Donc, l'État congolais ne peut pas mettre des mauvais produits en circulation contre sa propre population. Non. Donc, l'État, dans la vision même du chef de l'État, c'est pour préserver la santé de sa population. Donc, l'État met tout en place pour que la santé de la population soit vraiment une priorité par rapport à tout. Donc, ils doivent suivre ce que les autorités demandent. Et nous, les autorités sanitaires, ce que nous leur disons, c'est ce qu'ils doivent suivre. Donc, la population ne peut pas suivre les réseaux sociaux par rapport à leur propre santé. Ça, c'était les grands défis au départ. Mais on a surmonté cela en sensibilisant la communauté à travers les radios, à travers les églises, les écoles. Je félicite tout le monde, surtout les journalistes. Vous avez été formidables par rapport à l'information que vous avez donnée à la population. Et voilà, la population elle-même a commencé à chercher les vaccins, à chercher les équipes pour se faire vacciner.
Enfin, de par le mode d'administration de ce vaccin, certains, comme vous venez de le dire, ont cru avoir affaire au vaccin anti-Covid-19. Votre réaction?
La vaccination dont il est question maintenant là, c'est la vaccination contre la fièvre jaune. Contre la fièvre jaune. C'est pas la vaccination contre Covid-19. Mais je crois Il y a 2-3 mois, nous avons vacciné contre Covid-19 ici. Donc, le moment n'est pas là pour Covid-19. Maintenant, c'est la vaccination contre la fièvre jaune. Lorsqu'il sera temps pour vacciner à grande échelle contre Covid-19, on ne manquera pas de donner l'information à la population. Nous devons dire la vérité à la population. Et vous voyez aujourd'hui, ceux qui suivent la télé, les amants ou les fanatiques de football, ils sont en train de voir comment est-ce que les stades sont pleins. Mais en 2020, les stades étaient vides. Les joueurs étaient en train de jouer tout seuls. Alors maintenant là, voilà, guichet fermé. Aujourd'hui là, les stades sont pleins. Pourquoi? C'est à cause des effets positifs de la vaccination. En Europe, vous trouvez des vaccinés au-delà des 80-90% des populations vaccinées. Et ça fait du bien, ça fait du bien. L'État a ouvert les stades, a ouvert les restaurants, les bars, les cinémas. Les gens entrent. Pourquoi? Parce que la vaccination a fait preuve de son efficacité. Donc nous ne pouvons pas dire à notre population, voilà ceci, il ne faut pas intoxiquer la population. Lorsqu'il arrivera le moment de vacciner à grande échelle contre Covid-19, nous allons dire à la population. Et la population viendra prendre le vacciné. Moi-même, là, j'ai été vacciné contre Covid. J'ai pris mes 2 doses d'AstraZeneca. Je suis là. Nous en avons vacciné plus de 500 ici à Mbandaka. Hein, ils ont reçu 2 doses. Ils sont là, ils sont bien vivants. Donc, il ne faut pas intoxiquer la population.
Docteur Jean-Robert Roy-Sanjola, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur
le journaliste. C'était l'invité de Radio Capi, le chef d'antenne du PEV, Robert Isanjola, s'entretenait avec Paul Richard Malengela, c'était à Mbandaka. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Retrouvez-les sur www.radiocapi.net. Infiniment merci à Noël Aluzi Tukabambi et Alain Rougoumouchige qui m'ont accompagné.